Vous allez entendre les 14 premiers chapitres de l'Évangile de Matthieu. Une deuxième cassette contient les chapitres 15 à 28 de ce même Évangile. La traduction utilisée pour cet enregistrement est celle du Nouveau Testament en français courant, publiée par les sociétés bibliques francophones sous le titre « Bonne nouvelle aujourd'hui ». L'Évangile de Matthieu est lu ici par Jean Bruno.
Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, qui était descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. D'une génération à l'autre, les descendants d'Abraham furent Isaac, Jacob, Judas et ses frères, Pharès et Zara, dont la mère était Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naasson, Salmon, Boaz, dont la mère était Rahab, Obed, fils de Ruth, Isaïe, qui fut père du roi David. David fut père de Salomon. Sa mère avait été la femme d'Uri. Salomon eut pour descendants Roboam, Abia, Asaph, Josaphat, Joram, Ozias, Joatam, Akaz, Ézéchias, Manassé, Amon, Josias, Jéconias et ses frères, à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, les descendants de Jéconias furent Salathiel, Zorobabel, Abioud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Elioud, Éléazar, Matan, Jacob, Joseph, l'époux de Marie, qui fut la mère de Jésus, appelé le Messie. Il y eut donc successivement 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, puis 14 depuis David jusqu'à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone, et 14 depuis cette époque jusqu'à la naissance du Messie. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils que l'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils, que Joseph appela Jésus.
Chapitre 2.
Jésus naquit à Bethléem, ville du pays de Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants qui observaient les étoiles vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut très inquiet, ainsi que tous les habitants de Jérusalem. Il assembla tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi de son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, ville de Judée. » Car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem du pays de Judée, tu n'es certainement pas le moins important des chefs-lieux de Judée, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode appela en secret les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez et cherchez bien l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée à l'est. Elle allait devant eux, mais au moment où elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie lorsqu'ils virent l'étoile. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Après que les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit l'enfant et sa mère, et partit avec eux pendant la nuit pour l'Égypte. Il y resta jusqu'au jour où Hérode mourut. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer tous les garçons de Bethléem et des environs, âgés de 2 ans ou moins, selon ce qu'il avait appris des savants au sujet du moment où l'étoile était apparue. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. « On a entendu un cri à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. » Quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, prit l'enfant et sa mère, et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit que le fils d'Hérode, Archélaüs, avait succédé à son père comme roi de Judée. Alors il eut peur de s'installer dans cette région. Après avoir reçu des indications dans un rêve, il partit pour la province de Galilée et alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole des prophètes, « Il sera appelé Nazaréen. »
Chapitre 3.
En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. « Changez de vie, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. » Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau, et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain, venaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés, et Jean les baptisait dans la rivière du Jourdain. Quand il vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour se faire baptiser, Jean leur dit « Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie, et ne pensez pas que vous n'avez qu'à dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre », car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de vie. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. »
Chapitre 4.
Ensuite, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, « L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, « Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que tu ne te blesses pas le pied contre une pierre. » Jésus répliqua, « L'Écriture déclare aussi, « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur grandeur. « Je te donnerai tout cela, lui dit-il, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Loin de moi, Satan, car l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée. Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaum, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe, « Pays de Zabulon, pays de Nephtali, en direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée qu'habitent les non-juifs. Le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. » Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher. « Changez de vie, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. » Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères qui étaient pêcheurs, Simon appelé Pierre et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. « Venez avec moi, leur dit Jésus, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et l'accompagnèrent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée leur père et réparaient leur filet. Jésus les appela. Aussitôt, ils abandonnèrent la barque et leur père et ils le suivirent. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. L'on entendit parler de lui dans toute la région de Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de diverses maladies et étaient tourmentés par divers maux, ceux qui avaient des esprits mauvais, ainsi que les épileptiques et les paralytiques. Et Jésus les guérit. De grandes foules le suivirent. Elles venaient de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et du territoire situé de l'autre côté du Jourdain.
Chapitre 5.
Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une colline et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, et il se mit à les enseigner en ces mots. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la peine, car Dieu les consolera. Heureux les doux, car ils hériteront la terre que Dieu leur a promise. Heureux ceux qui ont un vif désir de vivre comme Dieu le demande, car il le leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils font ce que Dieu demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent en disant toutes sortes de calomnies contre vous, parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors, et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les détruire, mais pour leur donner leur véritable sens. Je vous le déclare, en vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de cette loi ne seront supprimés, et cela jusqu'à la fin de toute chose. C'est pourquoi celui qui désobéit même au plus petit des commandements et enseigne aux autres à agir ainsi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui obéit à cette loi et enseigne aux autres à agir ainsi sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux que si vous obéissez à ce que Dieu demande mieux que ne le font les maîtres de la loi et les pharisiens. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos ancêtres, « Ne tue pas. Tout homme qui commet un meurtre sera amené devant le juge. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » sera amené devant le conseil supérieur. Celui qui lui dit « fou » mérite d'aller dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si quelqu'un porte une accusation contre toi, et que vous allez ensemble au tribunal, hâte-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, en vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Ne commets pas d'adultère. » Mais moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'avoir ton corps tout entier jeté en enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'aller en enfer avec ton corps tout entier. Il a été dit aussi, « Celui qui renvoie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Et celui qui se marie avec une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Ne romps pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur. » Mais moi, je vous dis de ne point faire du tout de serment. N'en faites ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est un escabeau pour ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne fais pas non plus de serment par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Dites simplement « oui » ou « non ». Tout ce que l'on dit en plus vient du diable. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le aussi te gifler sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès et te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si un représentant des autorités t'oblige à porter une charge sur 1 kilomètre, porte-la sur 2 kilomètres. Donne à celui qui te demande quelque chose. Ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est aux cieux est parfait. »
Chapitre 6.
Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Si vous les accomplissez ainsi, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes de l'argent aux pauvres, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour recevoir les éloges des hommes. Je vous le déclare, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, fais-le de telle façon que même ton plus proche ami n'en sache rien, afin que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car lui, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils ont commis, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. je vous le déclare, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et peigne tes cheveux, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs forcent les serrures et dérobent. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrures ni dérober. Car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Les yeux sont comme la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Personne ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée pour être brûlée au four. Ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre foi est petite, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Avec quoi nous habillerons-nous ? » Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, il vous apportera ses propres soucis. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée.
Chapitre 7.
Ne jugez pas les autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez, et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil », alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, de peur qu'ils ne se tournent contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre s'il lui demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il lui demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les livres des prophètes. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui les utilisent. Mais étroite est la porte, difficile est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en se donnant l'apparence de moutons, mais au-dedans ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs actions. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs actions. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand viendra le jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé en ton nom des messages reçus de Dieu, nous avons chassé en ton nom des esprits mauvais, nous avons accompli en ton nom de nombreux miracles. » Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules étaient très étonnées de sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi. Mais lui les enseignait avec autorité.
Chapitre 8.
Jésus descendit de la colline, et de grandes foules le suivirent. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui déclara, « Écoute bien, ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha de lui et lui demanda son aide. « Maître, mon serviteur est couché à la maison. » Il est paralysé et souffre terriblement. Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Mais le capitaine répondit, « Maître, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison, mais donne seulement un ordre et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, « Va » et il va, à un autre, « Viens » et il vient. Et je dis à mon serviteur, « Fais ceci » et il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le déclare, en vérité, je n'ai jamais trouvé une telle foi chez qui que ce soit en Israël. Je vous affirme que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui devaient appartenir au royaume seront jetés dehors dans l'obscurité où ils pleureront et grinceront des dents. » Puis Jésus dit au capitaine, « Va chez toi, ce que tu as cru te sera accordé. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Jésus se rendit à la maison de Simon-Pierre. Il y trouva la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Quand le soir fut venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes qui avaient des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits, et il guérit aussi tous les malades. Il le fit pour que se réalise cette parole du prophète Ésaïe : « Il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. » Jésus vit la foule autour de lui. Alors il donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un maître de la loi s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des terriers, et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. » Un autre homme, qui était un de ses disciples, lui dit : « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répliqua : « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus monta dans la barque, et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une si grande tempête s'éleva sur le lac que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et lui dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » « Pourquoi avez-vous si peur ? » leur répondit Jésus. « Comme votre foi est petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient : « Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et l'eau du lac lui obéissent ?» Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Gadaréniens, deux hommes sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ces hommes avaient en eux des esprits mauvais et étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous punir avant le moment fixé ?» Il y avait, à une certaine distance, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais adressèrent cette prière à Jésus : « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez !» leur dit Jésus. Ils sortirent des deux hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau se précipita du haut de la pente dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent. Ils se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les deux hommes aux esprits mauvais. Alors, tous les habitants de la ville sortirent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire.
Chapitre 9.
Jésus monta dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Quand Jésus vit la foi de ces gens, il dit au paralytique : « Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes : « Cet homme parle contre Dieu. » Jésus sut ce qu'il pensait et dit : « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées ? Est-il plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il dit alors au paralytique : « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » L'homme se leva et s'en alla chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et loua Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau de paiement des impôts. « Suis-moi, lui dit-il. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu, beaucoup de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et déclara : « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de docteurs. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots de l'Écriture : c'est la bonté que je désire, et non des sacrifices d'animaux. Car je ne suis pas venu appeler des gens respectables, mais des gens de mauvaise réputation. » Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent : « Pourquoi, alors que nous jeûnons souvent, nous et les pharisiens, tes disciples ne le font-ils jamais ?» Et Jésus leur répondit : « Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que l'époux est avec eux ? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car ce morceau arrache une partie du vêtement et la déchirure s'agrandit encore. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et ainsi le tout se conserve bien. » Pendant que Jésus leur disait ces paroles, un chef juif arriva, se mit à genoux devant lui et dit : « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans s'approcha alors de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait : « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna, la vit, et déclara : « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et à ce moment même, la femme fut guérie. Jésus arriva à la maison du chef. Quand il vit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui s'agitait bruyamment, il dit : « Sortez d'ici, car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Quand on eut mis la foule dehors, Jésus entra dans la chambre, il saisit la fillette par la main, et elle se leva. La nouvelle s'en répandit dans toute cette région. Jésus partit de là, et comme il passait en un certain endroit, deux aveugles se mirent à le suivre en criant : « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et il leur demanda : « Croyez-vous que je peux faire cela ?»« Oui, maître, lui répondirent-ils. » Alors Jésus leur toucha les yeux et dit : « Puisque telle est votre foi, que cela vous soit accordé. » Et leurs yeux purent voir. Jésus leur parla durement. « Écoutez bien, leur dit-il, personne ne doit le savoir. » Mais ils s'en allèrent et parlèrent de Jésus dans toute cette région. Au moment où ils s'en allaient, on amena à Jésus un homme qui ne pouvait pas parler parce qu'il avait un esprit mauvais. Dès que Jésus eut chassé cet esprit, le muet se mit à parler. Les foules étaient remplies d'étonnement et disaient : « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens affirmaient : « C'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. » Jésus passait par toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit alors à ses disciples : « Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. »
Chapitre 10.
Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, et son frère André. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, qui livra Jésus à ses ennemis. Jésus envoya ses 12 hommes avec les instructions suivantes : n'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs, et n'entrez pas dans des villes de Samarie. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. en chemin prêchez et dites « Le royaume des cieux s'est approché. » Guérissez les malades, ramenez les morts à la vie, rendez purs les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise, ne prenez ni chaussures, ni bâtons. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous y recevoir et restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites « La paix soit avec vous ». Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre salut de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre salut de paix. Si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le déclare, en vérité, au jour du jugement, le châtiment sera moins dur pour les habitants de Sodome et de Gomorre que pour les habitants de cette ville-là. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. On vous fera comparaître devant des dirigeants et des rois à cause de moi, pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Des hommes livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le déclare, en vérité, vous n'aurez pas achevé de passer dans toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Aucun élève n'est plus grand que son maître. Aucun serviteur n'est plus grand que son patron. Il suffit que l'élève devienne comme son maître et que le serviteur devienne comme son patron. Si l'on a appelé le chef de famille Belzébul, on donnera des noms pires encore aux membres de sa famille. Ne craignez donc pas les hommes. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour, et ce que vous entendez en secret, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vantons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le permette. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient. Mais celui qui aura affirmé publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. L'homme qui vous reçoit me reçoit. Et l'homme qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète de Dieu parce qu'il est prophète de Dieu recevra la récompense accordée au prophète. Et celui qui reçoit un homme juste devant Dieu parce qu'il est juste devant Dieu recevra la récompense accordée à l'homme juste. Je vous le déclare. En vérité, celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région.
Chapitre 11.
Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il lui envoya alors quelques-uns de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas sa foi en moi. » Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler aux foules au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » leur demanda-t-il. « Un roseau agité par le vent ? » ?»« Non. » »« Alors, qu'êtes-vous allé voir ? » ?»« Un homme vêtu d'habits magnifiques ? » ?»« Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. » »« Qu'êtes-vous donc allé voir ? » Un prophète ? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, en vérité, parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait, jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont parlé du royaume, jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez me croire, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ? Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns crient aux autres « Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamenté. » En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas de vin, et l'on dit « Il a en lui un esprit mauvais. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit « Voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin. » qui est ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses œuvres. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Il déclara « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avait été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient revêtu des sacs et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, le châtiment sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel ? Tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, le châtiment sera moins dur pour Sodome que pour toi. » En ce temps-là, Jésus déclara, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, Je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos intérieur. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger.
Chapitre 12.
Quelque temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim. Ils se mirent à cueillir des épis de blé et à en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde, tes disciples font ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses gens avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu, et lui et ses gens mangèrent les pains offerts à Dieu. Il ne leur était pourtant pas permis d'en manger. Notre loi ne le permet qu'aux prêtres seuls. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat, les prêtres en service dans le temple n'observent pas la loi du sabbat, et cela sans être coupables ? Or, je vous le déclare, il y a ici plus que le temple. Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, c'est la bonté que je désire, et non des sacrifices d'animaux. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus partit de là et se rendit dans une de leurs synagogues. Un homme s'y trouvait, qui avait la main desséchée. Ceux qui étaient là voulaient accuser Jésus de mal agir. C'est pourquoi ils lui demandèrent, « Notre loi permet-elle de faire une guérison le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « Si l'un d'entre vous a un seul mouton, et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là ? Et un homme vaut beaucoup plus qu'un mouton. Donc, notre loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. » Jésus dit alors à l'homme, « Avance ta main. » Il l'avança, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Quand Jésus apprit cela, il quitta cet endroit, et un grand nombre de personnes le suivirent. Il guérit tous les malades, mais il leur recommanda sévèrement de ne pas dire qui il était. Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu, celui que j'aime et en qui je mets toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera mon jugement aux nations. Il ne se disputera avec personne et ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne brisera pas le roseau courbé et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et toutes les nations mettront leur espoir en lui. » On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet parce qu'il avait un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme, de sorte qu'il se mit à parler et à voir. Toutes les foules étaient remplies d'étonnement et disaient, « Serait-il le fils de David ?» Mais quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent, « Cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Belzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, « Tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Toute ville ou toute famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra continuer à exister. Si Satan chasse ce qui est à Satan, il est en lutte contre lui-même. » Comment donc son royaume pourra-t-il continuer à exister ? Vous prétendez que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébul m'en donne le pouvoir. Qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et voler ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Mais après l'avoir lié, il peut tout voler dans sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. C'est pourquoi je vous le déclare, les hommes pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute parole mauvaise qu'ils prononcent. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. L'homme qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne recevra de pardon ni dans le temps présent, ni dans le temps à venir. Pour avoir du bon fruit, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un mauvais arbre, vous aurez du mauvais fruit. Car on reconnaît un arbre au genre de fruit qu'il produit. Bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor de bien. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son trésor de mal. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé, et déclaré soit innocent, soit coupable. Alors quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions te voir accomplir un miracle. » Jésus leur répondit en ces mots, « Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu demandent un miracle, mais aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront. Car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des endroits desséchés, en cherchant un lieu où se reposer. Comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. » Il y retourne et trouve la maison vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils reviennent ensemble et s'installent là. C'est ainsi que finalement l'état de cet homme est pire qu'au début. Et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Comme Jésus parlait encore aux foules, sa mère et ses frères arrivèrent. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, « Écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. » Jésus répondit à cette personne, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il désigna de la main ses disciples et dit, « Voyez, ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur ou ma mère. »
Au chapitre 13.
Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une si grande foule s'assembla autour de lui qu'il monta dans une barque et s'y assit. La foule se tenait au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses au moyen de paraboles et leur disait « Un homme sortit pour semer ». Comme il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites plantes et elles se desséchèrent, parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines. une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Ces plantes épineuses levèrent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit. Les uns produisirent 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles. » Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu au moyen de paraboles ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe en ces mots, « Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car l'esprit de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur esprit ne comprenne pas, et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare. En vérité, beaucoup de prophètes et de membres du peuple de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont semblables au bord du chemin où tombe la semence. Le mauvais arrive et arrache ce qui était semé dans leur cœur. D'autres ressemblent au terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Aussi, quand survient la peine ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils abandonnent immédiatement la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole. Mais les soucis de la vie de ce monde et le plaisir trompeur de la richesse étouffe la parole qui ne produit rien. D'autres hommes, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé, et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ, d'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors, « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?»« Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai aux ouvriers moissonneurs, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe, et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à 25 kilos de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Jésus dit tout cela aux foules au moyen de paraboles. Il ne leur parlait pas sans employer de paraboles. Il agissait ainsi afin que se réalise cette parole du prophète. « Je leur parlerai au moyen de paraboles, je leur annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. » Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit en ces mots « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les ouvriers moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise, où ils pleureront et grinceront des dents. Mais alors ceux qui obéissent à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. » Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache à nouveau. Il est si joyeux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble aussi à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble aussi à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'asseyent pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent à l'eau ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là qu'ils pleureront et grinceront des dents. « Avez-vous compris tout cela ?» leur demanda Jésus. « Oui, » répondirent-ils. Il leur dit alors, « Ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans la ville où il avait grandi. Il se mit à enseigner dans la synagogue de l'endroit, et toutes les personnes présentes furent très étonnées. Elles disaient, « D'où a-t-il cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-ce pas lui le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir ?» Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est respecté partout, excepté dans sa ville natale et dans sa famille. » Jésus n'accomplit là que peu de miracles, à cause de leur manque de foi.
Chapitre 14.
En ce temps-là, Hérode, le gouverneur de Galilée, entendit parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est revenu à la vie. Voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. » En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean. Il l'avait fait lier et mettre en prison. Hérode avait agi ainsi à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme. » Hérode voulait faire mourir Jean, mais il craignait le peuple juif, car tous considéraient Jean comme un prophète. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur le conseil de sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi en fut attristé, mais à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la remit à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enterrèrent. Puis ils allèrent annoncer à Jésus ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là dans une barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules la prirent. Elles sortirent des villes et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et se mit à guérir leurs malades. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Jésus leur répondit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta seul sur une colline pour prier. Quand la nuit vint, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. À un moment situé entre 3 et 6 heures du matin, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent bouleversés par la peur et dirent « C'est un fantôme !» Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Prenez courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua le vent, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répandirent la nouvelle de son arrivée dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. On le priait de les laisser toucher au moins le bord de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
Chapitre 15.
Des pharisiens et des maîtres de la loi vinrent alors de Jérusalem trouver Jésus et lui demandèrent « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à l'enseignement transmis par nos ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains, selon l'usage religieux, avant de manger. » Jésus leur répondit « Et vous ? Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre enseignement ? Dieu a dit en effet « Respecte ton père et ta mère » et aussi « Celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Mais vous vous enseignez que si quelqu'un déclare à son père ou à sa mère, la part de mes biens que je pourrais utiliser pour t'aider est un don réservé pour Dieu, cet homme n'a pas besoin d'aider son père. C'est ainsi que vous détruisez la valeur de la parole de Dieu pour agir selon votre propre enseignement. Hypocrite. Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet en ces mots « Ce peuple, dit Dieu, m'honore avec des paroles, mais dans son cœur, il est très loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est inutile, car ils enseignent des commandements faits par les hommes, comme si c'était des enseignements de Dieu. » Puis Jésus appela la foule et leur dit, « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, c'est plutôt ce qui sort de sa bouche qui le rend impur. » Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père qui est au ciel sera arrachée. Laissez-les, ce sont des conducteurs aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. »
Jésus dit, « Êtes-vous encore vous aussi incapables de comprendre ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, agir de façon immorale, voler, mentir et à dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, selon l'usage religieux, cela ne rend pas l'homme impur. » Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne, qui vivait dans cette région, vint à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais, elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande, « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit, « Maître, aide-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. » « C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, les chiens mangent les morceaux qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, que ta foi est grande. Il te sera fait selon ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elle des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. On les déposa aux pieds de Jésus, et il les guérit. Les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent les muets parler, les infirmes être guéris, les boiteux marcher, et les aveugles voir, et ils se mirent à louer le Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit, « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi, et ils n'ont plus rien à manger. » Je ne veux pas les renvoyer sans nourriture, ils pourraient tomber de faiblesse sur le chemin du retour. » Les disciples lui demandèrent, « Où pourrions-nous trouver de quoi nourrir une telle foule, dans cet endroit désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Et ils répondirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains et les poissons, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et se rendit dans la région de Magadan.
Chapitre 16.
Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus. Pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent de leur montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus leur répondit en ces mots, « Au coucher du soleil, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge. Et tôt le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapables d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu demandent un miracle, mais aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. » Puis il les laissa et partit. Quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils oublièrent de prendre du pain. Jésus leur dit alors, « Faites attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples se mirent à dire entre eux, « Ils parlent ainsi parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus s'aperçut de ce qu'ils disaient et leur demanda, « Pourquoi dire entre vous, c'est parce que nous n'avons pas de pain? Comme votre foi est petite, ne comprenez-vous pas encore? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains que j'ai rompus pour les 5 000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées? Et ne vous rappelez-vous pas les 7 pains rompus pour 4 000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors les disciples comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus se rendit dans la région proche de la ville de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. Ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. » Puis Jésus ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant, « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. » Je serai mis à mort, et le troisième jour, je ressusciterai. » Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu cherches à me faire tomber dans le péché, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. » Qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il paiera chacun selon la façon dont il aura agi. Je vous le déclare, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. »
Chapitre 17.
Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'apparence devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis les trois disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, c'est bien que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme ils parlaient encore, un nuage brillant vint les couvrir. Et du nuage une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent si peur qu'ils tombèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite après sa mort. » Puis les disciples demandèrent à Jésus, « Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit, « Élie doit en effet venir et tout remettre en ordre. Cependant, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme lui-même sera maltraité par eux. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Quand ils arrivèrent là où se trouvait la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique, et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'exclama, « Gens incrédules et mauvais que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais, celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit ? » Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, « Déplace-toi d'ici à là-bas », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Un jour que les disciples se trouvaient tous ensemble en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort. Mais le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples en furent profondément attristés. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, les percepteurs de l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent, « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ?»« Si, il le paie, » répondit Pierre. Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit, « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui doit payer les impôts ou les taxes aux rois de ce monde ? Les citoyens de leur pays ou les étrangers ?»« Les étrangers, » répondit Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, « Les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paie-leur notre impôt. »
Au chapitre 18.
À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un enfant, le plaça devant eux et dit, « Je vous le déclare. En vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, me reçoit moi-même. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Il y aura toujours de tels faits, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Je vous l'affirme en effet, leurs anges dans les cieux se tiennent continuellement en présence de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous ? Si un homme possède 100 moutons et que l'un d'eux se perd, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est perdu ? S'il le retrouve, je vous affirme qu'il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas perdus. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère pêche contre toi, va le trouver et montre-lui sa faute, mais en demeurant seul avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi, afin que, comme le déclare l'Écriture, toute accusation soit appuyée par le témoignage de deux ou trois témoins. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un étranger ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, en vérité, tout ce que vous interdirez sur terre sera interdit dans le ciel. Tout ce que vous permettrez sur terre sera permis dans le ciel. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il ne cesse de pécher contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il venait de se mettre à compter quand on lui en amena un qui lui devait des millions de francs. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Son maître ordonna alors de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur tomba à genoux devant son maître pour le supplier. « Prends patience envers moi, lui dit-il, et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié. Il lui remit sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une centaine de francs. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds et le supplia « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais il ne voulut pas. Il le fit au contraire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était très en colère et il envoya le serviteur en prison pour y être puni jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. »
Chapitre 19.
Quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière du Jourdain. De grandes foules l'y suivirent et il guérit leurs malades. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ?» Jésus répondit « N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit homme et femme. Puis il dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront un seul être. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être, que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui demandèrent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme pour la renvoyer ?» Jésus répondit, « Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et se marie avec une autre, il commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Jésus leur répliqua, « Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu a donné de le pouvoir. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, comme les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. » Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors, « Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » « Auquel ? » demanda-t-il. Jésus répondit, « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je faire encore ?»« Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, en vérité, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole. « Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur dit, « Je vous le déclare. En vérité, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous, les 12 qui m'avez suivi, vous serez également assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants ou leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. »
Chapitre 20.
Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager les ouvriers pour sa vigne. Il fut d'accord de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. « Allez-vous aussi travailler dans ma vigne, leur dit-il, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que, répondirent-ils, personne ne nous a engagés. » Il leur dit, « Eh bien, allez-vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en commençant par ceux qui ont été engagés en dernier et en terminant par ceux qui ont été engagés en premier. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent à l'heure et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ceux qui avaient été engagés en premier vinrent, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils s'indignaient contre le propriétaire et disaient, « Ces ouvriers engagés en dernier lieu n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai pas trompé. Tu as été d'accord de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet homme qui a été engagé en dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Comme Jésus se rendait à Jérusalem, il prit les 12 disciples à part et leur dit tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet et le cloueront sur une croix. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu ? » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Promets-moi que mes 2 fils que voici seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?»« Nous le pouvons, » lui répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe, » leur dit Jésus. « Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme prix pour la libération de beaucoup d'hommes. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent alors à crier « Maître, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur faisait des reproches et leur disait de se taire. Mais ils criaient encore plus fort « Maître, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Maître, lui répondirent-ils, fais que nos yeux puissent voir. » Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux. Aussitôt les deux hommes purent voir et ils le suivirent.
Chapitre 21.
Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent au village de Bethphagé sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. « Dites à la ville de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, gloire à Dieu dans les cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ? » demandait-on. « C'est le prophète Jésus, de Nazareth, en Galilée, » répondaient les foules. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les chaises des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, « Les Écritures déclarent, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » « Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple, et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait, et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au Fils de David !» Ils dirent alors à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ?» Tu as fait sortir des louanges de la bouche des enfants et des bébés. » Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Le lendemain matin, comme il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que les feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare. En vérité, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. » Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Jésus entra dans le temple et se mit à enseigner. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent alors et lui demandèrent, « De quel droit fais-tu ces choses ? Qui t'a donné ce droit ?» Jésus leur répondit, « Je vais vous poser à mon tour une question, une seule. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptisé, Dieu ou les hommes ? » Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent, « Si nous répondons c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera, pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean ? Mais si nous disons, ce sont les hommes qui l'ont envoyé, nous avons à craindre la foule, car tous pensent que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » « Eh bien, répliqua-t-il, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » « Que pensez-vous de ceci ? » ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »« Je ne veux pas, » répondit-il. Mais plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Puis le père s'adressa à l'autre fils et lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit « Oui, père. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait ce que voulait son père ? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, je vous le déclare, en vérité les collecteurs d'impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous en vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé d'opinion pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, y creusa un trou pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les ouvriers vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà celui qui deviendra propriétaire plus tard. Allons, tuons-le et nous aurons sa propriété ». Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? Demanda Jésus. Ils lui répondirent, il tuera sans pitié ces hommes mauvais et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront sa part de la récolte au moment voulu. Puis Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture ? C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée qui est devenue la pierre principale. Voilà ce qu'a fait le Seigneur, et il est merveilleux pour nous de voir cela. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui en produira les fruits appropriés. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. Les chefs des prêtres et les pharisiens entendirent les paraboles de Jésus et comprirent qu'il parlait d'eux. Ils cherchèrent alors un moyen de l'arrêter, mais ils eurent peur des foules qui considéraient Jésus comme un prophète.
Chapitre 22.
Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Voici, leur dit-il, à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas de mariage pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre, dit aux invités, « Voilà, mon repas est préparé, j'ai fait tuer mes taureaux et mes bêtes grasses, tout est prêt, venez au repas de mariage. » Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires, l'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle de fête se remplit de monde. Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas d'habit de mariage. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de mariage ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans l'obscurité. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » Car, ajouta Jésus, « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu parles avec vérité. » Tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les gens, car tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ? Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda, « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils ? » « De l'empereur, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et payez à Dieu ce qui lui appartient. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Le même jour, quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui disent que les morts ne ressusciteront pas. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, voici ce que Moïse a déclaré. Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit épouser la veuve et avoir des enfants avec elle pour son frère mort. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, mourut sans avoir eu d'enfant et laissa ainsi sa veuve à son frère. Il en fut de même pour le deuxième frère, puis pour le troisième et pour tous les 7. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour où les morts ressusciteront, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? Car ils l'ont tous eu comme épouse. » Jésus leur répondit, « Vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts ressusciteront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. Pour ce qui est des morts qui ressuscitent, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu d'hommes vivants, et non de morts. Les foules qui l'avaient entendu étaient très étonnées de son enseignement. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent, et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Messie ? « De qui est-il le descendant ?»« De David, » lui répondirent-ils. Jésus leur dit, « Comment donc David, poussé par le Saint-Esprit, a-t-il pu l'appeler Seigneur ? Car David a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi descendant de David ?» Aucun d'eux ne put lui répondre un seul mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions.
Chapitre 23.
Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. « Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils refusent de les aider même du bout du doigt à porter ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon à ce que les hommes les remarquent. Ainsi, ils élargissent les boîtes contenant des versets bibliques qu'ils portent au front et au bras, et ils allongent les franges de leurs manteaux. Ils aiment les meilleures places dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car vous êtes tous frères, et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, maîtres de la loi, et pharisiens hypocrites. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même,
et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent, et en même temps vous faites de longues prières pour paraître bon. C'est pourquoi vous recevrez un châtiment d'autant plus grand. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul adepte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui se trouve dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y siège. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous donnez à Dieu la dixième partie de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont remplis du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, à l'extérieur, vous paraissez bons aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux de ceux qui ont eu une vie juste, et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des hommes capables de vous enseigner. Vous tuerez les uns. Vous en clouerez d'autres sur des croix, vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi, c'est sur vous que retombera le châtiment mérité pour tous les meurtres d'innocents qui ont été commis depuis le meurtre d'Abel le Juste jusqu'au meurtre de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare. En vérité, le châtiment mérité pour tous ces meurtres retombera sur les gens d'aujourd'hui. Jérusalem. Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, et tue à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je voulu rassembler ta population auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare, dès maintenant vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, « Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ».
Chapitre 24.
Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous voyez tout cela. Je vous le déclare, en vérité, il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. » Jésus s'était assis sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'enfantement. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous fasse souffrir, et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Vous verrez celui qu'on appelle horreur et abomination, dont le prophète Daniel a parlé, placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne bien cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre pour prendre à l'intérieur des affaires à emporter. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour prendre son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la saison froide ou un jour de sabbat. Car en ce temps-là, la souffrance sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période-là, personne ne pourrait survivre. Mais il l'a abrégée à cause des hommes qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, « Regardez, le Messie est ici, ou bien il est là », ne le croyez pas. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils produiront de grands signes et des miracles pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous l'ai annoncé d'avance. Sidon vous dit, « Regardez, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la souffrance de ces jours-là, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux trembleront. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre côtés de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout du monde à l'autre. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je vous le déclare, en vérité, les gens actuellement vivants ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles, elles, ne disparaîtront jamais. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure. Pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, durant les jours qui précédèrent la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leur fille en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Deux femmes moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître a confié la charge de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour chez lui, trouvera occupé à ce travail. Je vous le déclare, en vérité, le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Mais ce sera un mauvais serviteur s'il se dit en lui-même « Mon maître tarde à revenir » et s'il se met à battre ses compagnons de service, à manger et boire avec des ivrognes. Alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents.
Chapitre 25.
Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile avec elles, tandis que celles qui étaient sages emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, les 10 jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez, allez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt au magasin et achetez-en pour vous. » Les insensés allèrent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, l'époux arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage, et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais l'époux répondit « Je vous le déclare, en vérité, je ne vous connais pas. » « Veillez donc, » ajouta Jésus, « car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, regarde, en voici 500 autres que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, regarde, en voici 200 autres que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de graines. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Regarde, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu de graines. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec l'intérêt. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or, et donnez-les à celui qui a 500 pièces. Car à tout homme qui a, l'on donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans l'obscurité. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. Quand le Fils de l'homme viendra comme roi avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Les justes lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous ? Ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits par Dieu. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Ils lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger ou nu ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait non plus. » Et ils seront envoyés au châtiment éternel, tandis que les justes iront à la vie éternelle.
Chapitre 26.
Quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. Eh bien, le Fils de l'homme va être livré pour être cloué sur une croix. » Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif se réunirent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. « Nous ne devons pas l'arrêter pendant la fête, disait-il, sinon le peuple va se soulever. » Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples virent cela, ils furent indignés et dirent, « Pourquoi ce gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Jésus se rendit compte qu'ils parlaient ainsi et leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a répandu ce parfum sur mon corps et elle l'a fait afin de me préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, en vérité, partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait en souvenir d'elle. » Alors un des 12 disciples, appelé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit, « Que me donnerez-vous si je vous livre Jésus ?» Et ils comptèrent 30 pièces d'argent qu'ils lui remirent. À partir de ce moment, Judas se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur dit alors, « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le maître déclare, « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, Jésus dit, « Je vous le déclare, en vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ? Jésus répondit, « Celui qui a trempé avec moi son pain dans le plat, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et demanda, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, maître ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui confirme l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, « Je tuerai le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je me rendrai avant vous en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare. En vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. » Pierre lui dit, « Je n'affirmerai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces mots, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas pu veiller avec moi même une heure. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais son corps est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces mots, « Mon Père, si cette coupe ne peut être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la troisième fois en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. Voyez, l'heure est arrivée, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. » Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des douze disciples. Il y avait avec lui une foule nombreuse de gens qui portaient des épées et des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. « L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. Saisissez-le. » Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit, « Salut, maître. » Puis il l'embrassa. Jésus lui répondit, « Mon ami, que s'accomplisse ce que tu es venu faire. » Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit alors, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide, et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges ? Mais en ce cas, comment s'accompliraient les Écritures? Elles déclarent en effet que cela doit se passer ainsi. Puis Jésus dit à la foule, « Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les maîtres de la loi et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation, même fausse, contre Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens fussent venus déposer de fausses accusations contre lui. Finalement, deux hommes se présentèrent et dirent « Cet homme a déclaré, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien? Que disent ces gens contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit alors, « Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous serment. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a parlé contre Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit contre Dieu. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent, « Il est coupable et doit être mis à mort. » Puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant, « Et toi, le Messie, devine, dis-nous qui t'a frappé. » Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante du grand prêtre s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde, en déclarant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en déclarant, « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu de temps après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement tu es l'un d'eux. Ton accent montre d'où tu viens. » Alors Pierre se mit à dire, « Que Dieu me punisse si je mens. Je jure que je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » Il sortit et pleura amèrement.
Chapitre 27.
Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent lier, l'emmenèrent et le remirent à Pilate, le gouverneur. Lorsque Judas, celui qui l'avait trahi, vit que Jésus avait été condamné, il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent, « Que nous importe, c'est ton affaire. » Judas jeta l'argent dans le temple et partit. Puis il alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi ce champ s'est appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors se réalisèrent ces paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, somme que les Israélites avaient été d'accord de payer pour lui, et ils les employèrent pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi qui le dis. » Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête de la Pâque juive, Le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je vous libère ? Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ ?» Car Pilate savait bien qu'il lui avait livré Jésus parce qu'ils étaient jaloux. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. « N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»« Barabbas, lui répondirent-ils. » « Que ferais-je donc de Jésus appelé Christ ?» leur demanda Pilate. Tous répondirent « Cloue-le sur une croix. » « Quelle mauvaise action a-t-il donc commise ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force « Cloue-le sur une croix !» Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » Toute la foule répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur libéra Barabbas. Il fit fouetter Jésus et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau rouge. Puis ils tressèrent une couronne avec des épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils placèrent un bâton dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui et prenait le bâton pour le frapper sur la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix. Comme ils sortaient de la ville, ils rencontrèrent un homme originaire de Cyrène, appelé Simon. Ils l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « le lieu du crâne ». Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec de la bile. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Deux brigands furent alors cloués sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passaient par là secouaient la tête et l'insultaient. Ils lui disaient, « Toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient, « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. » Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré « Je suis le Fils de Dieu. Eh bien, voyons si maintenant Dieu veut le sauver. » Et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui l'insultaient de la même manière. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie !» Eli lama sabachthani, ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'exclamèrent « Il appelle Eli !» L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa au bout d'un bâton, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent « Attends, nous allons voir si Eli vient le sauver !» Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux membres du peuple de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. L'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu. » De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de la ville de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Quand le soir fut venu, un homme riche de la ville d'Arimathée arriva. Il s'appelait Joseph et était lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le roc. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Excellence, nous nous souvenons que ce menteur, quand il était encore vivant, a dit « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et ne puissent pas dire ensuite au peuple « Il est ressuscité ». Ce dernier mensonge serait encore pire que le premier. » Pilate leur dit « Voici des soldats pour monter la garde. Allez et faites garder le tombeau le mieux que vous pourrez. » Ils s'en allèrent donc. Ils assurèrent la fermeture du tombeau en scellant la pierre et placèrent les soldats pour monter la garde.
Chapitre 28.
Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre de côté et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent si peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, « Il est ressuscité et il se rend maintenant avant vous en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit alors, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des soldats qui gardaient le tombeau revinrent en ville et racontèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Les chefs des prêtres se réunirent avec les anciens. Après s'être mis d'accord, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats et leur dirent, « Vous déclarerez que ses disciples sont venus durant la nuit et qu'ils ont volé son corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous saurons le convaincre et vous éviter d'avoir des ennuis. » Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »